Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce jeudi 6 novembre.
Balance courante, excédent historique en septembre. Pyongyang serait prêt pour un nouvel essai nucléaire. Et enfin, la Corée du Sud aura réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50 à 60% d'ici 2035.
En septembre 2025, la Corée du Sud a enregistré un excédent de sa balance courante pour le 29e mois consécutif. Selon un rapport publié ce matin par la Banque de Corée, l'excédent courant atteint 13,47 milliards de dollars. Un record pour un mois de septembre est le deuxième niveau le plus élevé de l'histoire. La balance commerciale affichait un surplus de 14,24 milliards de dollars, en hausse par rapport au mois précédent, et là aussi le deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré. Les exportations augmentaient de 12,6% en glissement annuel grâce aux semi-conducteurs et aux navires, en raison de l'effet de base lié au congé de Chuseok. En septembre 2024, les exportations de véhicules particuliers de produits non liés aux technologies de l'information ont également progressé. Les importations, quant à elles, ont cru de 4,5% sur un an, marquant un retour à la croissance après trois mois de recul. En revanche, la balance des services enregistrait un déficit de 3,32 milliards de dollars, principalement en raison des secteurs du tourisme et de la recherche et développement.
Dossier nord-coréen à présent. Pyongyang serait capable de procéder à son septième essai nucléaire dans un délai très court en utilisant le troisième tunnel de Punggye-ri si Kim Jong-un se décidait à le faire. Cette estimation a été avancée hier par l'Agence sud-coréenne du renseignement de la défense, la DIA, lors d'un audit parlementaire à huis clos. Selon le représentant du Minju au sein de la commission du renseignement de l'Assemblée nationale qui a relayé l'information, il y a au total 4 tunnels à Punggye-ri où les 6 précédents tests ont été mené et le troisième d'entre eux est opérationnel et prêt pour mener un exercice. Le régime nord-coréen multiplie les installations de fabrication de différents types de têtes nucléaires et s'apprêterait à jauger leur fiabilité. D'après le renseignement militaire, la Corée du Nord développe différents types de missiles ainsi que des satellites espions destinés à la capture d'images à haute résolution. Sur le missile balistique intercontinental, l'agence a estimé qu'un engin dont la portée dépasse les 13 000 km, capable de frapper le continent américain, avait été mis au point.
Pyongyang a aussi vivement réagi aux récentes sanctions américaines, déclarant que si les États-Unis continuaient à faire preuve d'hostilité, elle y répondrait de manière équivalente avec patience. C'est ce qu'a rapporté ce matin la KCNA. Dans un communiqué, le vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères a affirmé que sa nature malveillante s'était une nouvelle fois révélée au grand jour, avant d'ajouter que la cinquième série de sanctions unilatérales imposées depuis l'arrivée de Trump au pouvoir mettait un terme aux spéculations sur un éventuel changement de politique des États-Unis vis-à-vis de la Corée du Nord. Selon lui, ces sanctions n'auraient aucune influence sur la position de cette dernière. Pour rappel, le Trésor américain a sanctionné le 4 novembre 2 institutions et 8 individus nord-coréens impliqués dans des activités de blanchiment d'argent. La veille, le Département d'État américain avait manifesté l'intention de proposer d'inscrire sur la liste tunisienne 7 navires de pays tiers impliqués dans l'exportation vers la Chine de charbon et de minerais de fer nord-coréens.
Et pour refermer ce chapitre, au sud, le ministre de la Réunification a reçu hier le nouvel ambassadeur de l'Union européenne. À cette occasion, Chang Dong-yong a présenté les grandes lignes de la politique du gouvernement visant à rétablir la confiance intercoréenne et à instaurer un environnement pacifique. Il a également sollicité la coopération et le soutien actif de la communauté internationale et de l'UE, tout en demandant à cette dernière la désignation d'un envoyé spécial pour la péninsule coréenne. Hugo Astuto, de son côté, a répondu que le vieux continent continuerait à communiquer et à coopérer pour la paix.
Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
Les deux grandes centrales syndicales du pays ont appelé hier l'Assemblée nationale à légiférer sur les retraites et porter progressivement l'âge légal de départ de 60 à 65 ans avant la fin de l'année. Afin d'étayer leurs demandes, la CCTU et la FKTU ont évoqué le fait que l'âge d'ouverture des droits à une pension, qui dépend actuellement de l'année de naissance, sera universellement fixé à 65 ans en 2023. Si celui de départ à la retraite est bloqué à 60 ans, il y aura par conséquent un vide de revenus pendant 5 années. Les deux confédérations ont également tenu à rappeler que pendant sa campagne électorale, Lee Jae-myung avait promis de repousser progressivement l'âge de départ pour l'exhorter à concrétiser cet engagement au plus vite. Le Minju et le Parti du pouvoir du peuple sont unanimes sur la nécessité d'adopter une loi en ce sens. Les deux camps sont néanmoins divisés sur les détails. La formation présidentielle veut supprimer l'obligation du patronat de réformer la structure des salaires. La principale force de l'opposition, elle, cherche à maintenir, voire à donner à l'employeur le choix de relever l'âge de départ ou encore de réembaucher ses employés retraités. Le parti présidentiel envisage d'élaborer prochainement une nouvelle proposition de loi. Jusqu'à présent, au total, 12 textes similaires ont été déposés au Parlement.
Environnement à présent, le gouvernement a opté aujourd'hui pour deux options dans son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2035. La première prévoit de les réduire de 50 à 60% et la seconde de 53 à 60% par rapport à 2018. Celle retenue sera ensuite présentée à l'ONU. Lors d'une réunion publique générale dédiée aux contributions déterminées au niveau national, le ministère du Climat, de l'Énergie et de l'Environnement a indiqué préférer désigner les objectifs planchers et plafonds au lieu de définir les chiffres précis à atteindre. L'objectif minimal est considéré comme étant réalisable et la limite maximale comme un défi à relever avec le soutien de l'État ou le développement des technologies innovantes. Initialement, le ministère avait proposé quatre cibles, 48%, 53%, 61% et 65% du niveau de 2018 en prenant en compte la décision de la Cour constitutionnelle. Saisie par les milieux industriels et des associations civiques, celle-ci avait jugé en août 2024 que les objectifs climatiques du pays violaient la Constitution en ce qu'ils ne protègent pas suffisamment les droits fondamentaux des personnes. C'est désormais à la commission présidentielle sur la neutralité carbone et la croissance verte de choisir l'une des deux options avant de la présenter en Conseil des ministres, puis à la conférence mondiale sur le climat, la COP30, qui aura lieu à partir de lundi au Brésil.
Sans transition, à 6 heures ce matin, 676 des 709 des systèmes administratifs touchés par l'incendie du 26 septembre au centre de données du gouvernement à Daejeon ont été remis en service, soit un taux de rétablissement de 95,3%. Lors d'une réunion au siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité ce matin, son chef a déclaré que les systèmes de niveau 1 et 2, liés directement à la vie et à la sécurité des citoyens, ont tous été rétablis. Une autre joie ainsi annoncée a baissé le niveau d'alerte sur les systèmes gouvernementaux de grave à vigilant. Il a précisé que tous les systèmes du centre de Daejeon devraient être rétablis d'ici le 20 novembre et que ceux transférés au centre de Daegu le seront d'ici la fin du mois de décembre. En conséquence, le CDS-CHQ sera dissous pour confier sa tâche au centre de réponse aux situations de crise.
Et pour terminer, l'année dernière, le nombre de bébés nés de familles multiculturelles a augmenté en Corée du Sud, une première depuis 12 ans. Selon l'Agence nationale des données et des statistiques, anciennement COSTAT, 13 416 enfants sont nés de couples multiculturels en 2024, soit 10,4% de plus que l'année précédente. Ils représentent 5,6% de l'ensemble des naissances. Cette reprise s'explique en grande partie par l'augmentation des mariages mixtes qui s'était ralentie après la pandémie de Covid-19. L'année dernière, ils ont progressé de 5% pour atteindre 21 450, le plus haut niveau depuis 2019. Cependant, en raison de la hausse globale des unions dans le pays, leur part a légèrement reculé à 9,6%. Les mariages entre un homme sud-coréen et une femme étrangère étaient les plus fréquents avec 71%, suivis de ceux entre une femme sud-coréenne et un homme étranger, puis ceux avec une personne naturalisée. Parmi les nationalités, les Vietnamiennes étaient les plus nombreuses avec 27%, alors que chez les hommes, les Américains arrivé en tête avec 7%. Enfin, 7992 divorces multiculturels ont été enregistrés, soit 2% de moins que l'année précédente. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oh Ha-young et Baptiste Mourigan. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de KBS World Radio.